Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent.
Salut.
Ça va bien?
Toujours.
C'est parfait. Je sais que tu es super occupé. Je suis super occupé aussi. Fait que je pense que, en tout cas, minimum, tu as une nouvelle, mais je pense qu'on va parler encore 3 heures sur cette nouvelle-là. Fait que c'est parfait.
Tu veux qu'on commence par la mienne? Non, t'as
les
chemises plug.
Les chemises plug. COVID-19, lavez-vous les mains, faites-vous vacciner, port du masque, distanciation, s'il vous plaît. On est en pleine croissance de cas dans les statistiquement, donc dans l'hospitalisation, ainsi de suite. Donc, puis c'est rendu une épidémie des non-vaccinés. S'il vous plaît, ne faites pas partie des statistiques. Soyez une personne affirmée. Donc, allez ailleurs. 28-29 septembre, Objective by the Sea au BTS version 4, qui est un événement de sécurité sur la sécurité plus des Mac, dans ce cas-ci iOS. Moi, je vais y assister, fait que c'est super intéressant. 4 octobre, Trust Valley Day, qui est un événement qui se passe en Suisse, mais à distance. Donc, le seul problème pour nous, Nord-Américains, c'est que les fuseaux horaires sont pas tout à fait compatibles. Non, mais ultimement, ça, je pense que ça commence à 2h30 du matin, ou heure du Québec. Mais cela étant dit, malgré ça, malgré l'effort qu'il faut faire, l'événement lui-même est très intéressant. Elastic On, 5, 6, 7 octobre, qui est un événement organisé par Elasticsearch pour vers tout le volet SIEM qui est très intéressant de leur offre, mais toute leur offre globale aussi qui est très intéressante de maîtriser, de savoir comment on fait. MapleSec, les mêmes dates, 5, 6, 7, qui est un événement canadien sur l'heure du dîner, c'est à peu près 1h30 pendant 3 jours, sur lequel on va avoir des spécialistes canadiens qui vont discuter, voir des panels, des choses comme ça. Très intéressant. 12 au 17 octobre, Montréal Connect, présenté par Prétend Numérique. Moi, je présente le 13 octobre ma présentation Bring Your Own Home, c'est-à-dire comment les réseaux domestiques sont maintenant en extension du réseau corporatif. Donc, c'est des présentations des enjeux que le confinement nous a amenés ou ça nous a placés différemment. 4, 5, 6... du 4 au 8 avril, qui est la semaine numérique par Québec Numérique, et 4, 5, 6, qui est spécifiquement pour le Secure. 4, 5, des conférences. Le 6, un événement connexe. De façon non confirmée, mais encore, ça va dans ces dates-là, fait que si vous avez l'intention. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des chefs de l'espoir. Il y en avait vraiment beaucoup cette fois-ci. Je vais commencer par la nouvelle de Vincent, pour lui laisser un peu la parole, parce que j'ai trop parlé depuis le début. Microsoft embote le pas sur la suppression des mots de passe, un peu comme le passwordless, tout qu'on s'en va. Ce qui est l'espèce de douleur atroce qu'on a à devoir saisir un mot de passe. Microsoft propose une approche qui va peut-être nous épargner ces éléments-là.
En fait, on a déjà parlé. On a déjà parlé dans d'autres contextes. En fait, Microsoft, avec les prochaines versions 11 et 12, puis là, ils veulent maintenant... Dans les versions entreprises, la mesure peut déjà être applicable. Toutefois, pour monsieur, madame, tout le monde, appelons ça civil, ils veulent maintenant faire l'introduction du passwordless Windows et des applications notamment. Vous l'aurez deviné, ça va prendre justement une application tiers, exemple Authenticator. On veut être en mesure justement de pouvoir se loguer en pesant sur Enter, toutefois, avec une application tierce, que ce soit Authenticator, que ce soit éventuellement probablement une YubiKey, que ce soit Bluetooth ou USB, ça va prendre... Microsoft emboîte le pas pour qu'on puisse utiliser un dispositif ou un téléphone intelligent qui inclut l'application pour être en mesure de démontrer que nous sommes bien la personne qui est en train de se charger sur l'appareil. Puis on en a déjà parlé dans d'autres contextes. Toutefois, l'autre élément, c'est que pour être en mesure d'installer Authenticator avec soit un compte entreprise ou scolaire ou un compte individuel, personnel, faut quand même s'identifier comme étant la personne qu'on prétend être sur Authenticator. Mais on peut utiliser Authenticator. Je parle de Authenticator ici parce que je pense que c'est une des applications qui est très populaire. Mais il y a d'autres outils là pour lesquels on va pouvoir incorporer notre compte individuel Microsoft ou même d'entreprise. Toutefois, ces outils-là pour pouvoir s'y connecter et retrouver l'ensemble de nos informations d'authentification. On a juste besoin de se rappeler d'un seul mot de passe qui appelle le master password à ce moment-là, mais ça demande un dispositif à portée de main physique avec nous, que ce soit une YubiKey, que ce soit un téléphone intelligent avec la présentation de notre face devant l'écran ou entrer 3 ou 4 chiffres demandés ou faire correspondre les chiffres que notre Windows nous présente à l'écran parmi une série de 5, 6, 7, 8 combinaisons pour démarrer l'authentification. Ceci étant dit, on parle d'authentification à notre OS, donc la grande porte d'entrée. Microsoft veut l'étendre davantage également à des applications qui pourraient être plus distinctes à ce moment-ci. Là. Donc, on peut parler peut-être de la suite Office avec d'autres outils, d'autres éléments, d'autres produits Microsoft qui nécessitent une authentification si on a de l'information à protéger, etc. Donc, Microsoft est en train d'emboîter le pas dans cette direction. Moi, j'adhère. Je trouve ça plaisant, je trouve ça fun, mais je suis de la vieille école. J'ai une voûte de mots de passe. J'aime avoir une seconde alternative si quelque chose se passerait mal. Je perds la YubiKey où ma fille a essayé de rentrer sur mon téléphone plus de 10 fois puis est barré pendant une heure et demie puis j'ai besoin de me charger.
Ça m'est déjà arrivé ça. J'ai même perdu mon téléphone au complet parce que j'ai un de mes enfants qui a voulu rentrer sur mon téléphone, puis finalement il l'a zappé, fait que ça m'a un peu mis dans l'embarras, mettons.
Fait que là, tu vois, ça veut dire que tu peux pas aller sur ton compte accéder pour payer tes comptes. Il faut que tu réinstalles le téléphone, tu réinstalles les applications, que tu te réauthentifies, que tu remettes les comptes. Oh là 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 là!
C'est un paquet de problèmes. Oui, ben tu parlais de genre de Hello. Toutes ces mesures-là que Microsoft a mises en place, puis elles sont excellentes dans l'ensemble, puis j'adore beaucoup. Là, je suis un utilisateur de Microsoft Authenticator, qui est le volet Microsoft pour tout l'usage de mon volet personnel qui est associé à le vieux Hotmail, qu'on a quand même habitué, et tu t'authentifies de cette façon-là. C'est que dans ce cas-ci, ils vont m'envoyer, comme tu parlais, tu faisais référence à un code avec des chiffres et des lettres. Puis est-ce que les chiffres que tu vois ton écran, ton ordinateur sont les mêmes que sur ton téléphone? Si c'est oui, tu fais oui, puis là, tu vas rentrer dans ton chose. Fait que c'est une espèce de deux facteurs qui est intégré comme ça. Et là, tous les problèmes des recouvrements, des numéros qui te donnent pour recouvrir, c'est très complexe. Du coup, dans l'univers Microsoft, j'ai pas eu tant de problèmes que ça parce que ça a été si fluide, peut-être j'étais chanceux. Mais dans d'autres environnements où ces données-là de deuxième facteur ou en tout cas sont un peu plus complexes, j'ai rencontré des problèmes. C'est très difficile de réussir à ramener à la vie un compte dans lequel on a perdu le MFA, on a perdu nos clés de recouvrement.
Ouais, tu en as parlé dans un ou deux podcasts précédents, ou trois même. Justement, tu as fait une petite...
J'en reviens toujours sur ça parce que, je le vis régulièrement parce que tous mes comptes sont MFA. Fait que donc, si j'ai eu malheur de perdre un de mes affaires de MFA, je suis vraiment dans le pétrin.
Tu vois, c'est drôle, de la façon dont tu amènes ça. Tu as besoin de perdre ton MFA. Ton téléphone meurt ou tu as besoin de le changer. Juste de penser à réinstaller tous ces éléments-là en te souvenant de ton master password, les services que tu utilises sur le téléphone, resynchroniser le tout, scraper l'autre téléphone. Des fois, il y a reconnaissance aussi du device qu'on utilise pour s'authentifier. Là, faut comme recommencer toute cette chaîne-là, cette chaîne d'approvisionnement, d'authentification-là, puis de présentation de soi, puis de le démontrer. Mais somme toute, ça facilite la vie, ça accélère le processus d'authentification. Là, je parle d'un point de vue des suites entreprises, là, notamment, mais d'un point de vue individuel, vous êtes votre propre employeur de façon individuelle pour vos comptes et les services que vous utilisez avec ça. Mais je pense que c'est un bon système. Là. Je trouve ça le fun. Là. La méthode passwordless qu'il appelle, là, ça fait peur, mais on lit un petit peu ce qu'il y a au travers, puis c'est pas qu'il réinvente quelque chose, là. Il emboîte juste le pas dans un modèle un modèle MFA, là, tout simplement, là, que je trouve intéressant.
Oui, ouais, le modèle est assez robuste globalement. C'est très le fun qu'ils prennent ce qu'ils ont déployé en entreprise, le déploie pour de façon personnelle. C'est-à-dire que maintenant, nos comptes associés à Microsoft de façon personnelle comme Live, Hotmail, maintenant Outlook, ça trahit mon âge parce que j'ai eu un compte Hotmail au tout début avant même que Microsoft rachète Hotmail. Donc, j'étais vraiment dans une autre époque. Qui donne ces outils-là à la disposition des gens, c'est merveilleux. Qu'ils amènent progressivement à cheminer vers ça, c'est merveilleux. Parce qu'en entreprise, on utilise ce genre de choses-là depuis un certain temps. C'est même des obligations à certains égards d'utiliser ces outils-là. Donc, c'est bien parce qu'on va rehausser. Chez Google, fait des choses similaires aussi. Fait qu'il y a quand même ces grands opérateurs-là, info nuagiques, ont un certain degré de préoccupation. Fait que c'est bien. Puis, de toute façon, le mot de passe lui-même est une douleur qu'on doit vivre. Si on peut s'en débarrasser jusqu'à un certain point avec d'autres moyens, donc un appareil qu'on possède ou des choses comme ça. Si on parle même dans la science-fiction, les gens font juste dire un code à haute voix devant plein de monde, puis l'ordinateur accepte le code comme étant une authentification de leur part. Donc, c'est très intéressant. Donc, on s'approche de peut-être ces univers-là. Là.
Oui, puis Microsoft se défend bien en disant que tout simplement, là, tu l'as bien dit, hein, le mot de passe est une douleur, puis malheureusement, le mot de passe devient une faiblesse. Parce qu'il s'agit de voler une base de données XYZ avec un nom d'utilisateur puis mot de passe associé. Là, dans ce cas-ci, il n'y en a pas de mot de passe.
Non,
c'est tout simplement un tiers, dont vous seul connaissez et qui vous connaît, qui vient déterminer si vous pouvez ou non vous connecter. Mais ça prend effectivement, ça prend un deuxième appareil. Il y a un deuxième appareil à quelque part, mais les mots de passe, il n'y en a plus.
C'est ça, ça prend certaines choses pour nous rendre plus loin. Puis de toute façon, considérant, puis là on en parle très peu parce que c'est dans le fond c'est très peu intéressant, mais toutes les fuites de mots de passe, de données, tout ce qu'il y a avec ça, c'est rendu endémique, c'est rendu tout le temps, c'est rendu, fait que si votre identité, alors est-ce que tout le monde, l'identité de tout le monde est rendue publique parce qu'elle a été fuitée, peu importe, nos mots de passe ont été fuités, fait que si vous pensez que votre mot de passe que vous utilisez sur 15 sites et privé, mais détrompez-vous parce qu'il a été fuité. Fait que là, on est rendu dans cet univers-là. Fait que on est même rendu à 2 ou 3 fois par semaine maintenant de sites qui ont fuité, police d'un tel, organisation d'un tel. Fait que c'est rendu comme une quasi-normalité. Ce qui est dommage en soi que ça soit rendu une normalité puis qu'on s'en fout jusqu'à un certain point parce que c'est rendu normal. Il devrait y avoir peut-être des répercussions légales ou autres sur ces entités-là qui sont peut-être à la limite négligentes, mais bref, nos mots de passe sont en nature, sont pas dans des systèmes comme Microsoft nous met dans les mains, qui sont plus robustes, qui s'appuient sur d'autres choses d'un point de vue technologique, entre autres, ils vont s'appuyer sur des certificats qui déposent sur nos périphériques, qui déposent sur nos choses, donc qui est quand même plus loin. Donc, on est capable de mieux protéger nos choses. Bref.
Oui, c'est une transition, je trouve, normale. On s'en va vers là. Tu vois, je t'écoutais parler, puis je pensais à toutes les fuites de données qu'il y a eu dans les 3-4 dernières années où c'est des fameux administrateurs de consoles. Des consoles comme du S3 Bucket, des consoles Azure, pour de la clientèle, des consoles Google. Normalement, le sysadmin, le gestionnaire de la console, quand il veut charger, il doit charger à partir de n'importe où dans le monde justement pour faire ses interventions. Il s'agit qu'un mot de passe soit compromis. Et puis, tiens, on a un deuxième gestionnaire de console dont on ne connaît pas l'identité dans un sous-sol chez sa mère, probablement un Roger qui se fait passer pour Natacha, qui a 14 ans dans ses temps libres. Hein, on rigole bien ici. Ouais. Mais tu vois, avec cette formule-là, puis un bon système de journalisation aussi des interventions, il n'y a plus d'histoire de mot de passe qui peut fuiter. La console, on veut y accéder. En fait, on pourrait même être très arrogant et exposer la console. La seule façon de s'y connecter, c'est par l'individu à qui on a laissé le trousseau de clés, point, et que le trousseau de clés se fait voler, même encore là, il y a une autre protection, c'est que le trousseau de clés, s'il ne nous reconnaît pas, il marche pas plus. Fait que, tu sais, je pensais à ça, je trouve ça fort intéressant. En fait, pour ce type d'expertise et de rôle-là, ça devient fort intéressant pour une entreprise parce que si tu es gestionnaire de la console Google de l'entreprise ABC Inc., puis tu perds ton trousseau de clés ou je te le vole, techniquement, ton téléphone, il s'ouvrira pas, puis je ne l'ai pas, ton code, à moins de te torturer, là. On n'est pas rendu là. C'est peut-être la prochaine étape qui va se passer au niveau des pirates, mais j'ai pas envie. Mais ultimement, si le téléphone...
cette étape-là n'en viendra pas parce que là, on est dans un univers où on a la facilité de pouvoir faire des attaques à partir de n'importe où dans le monde. On n'a plus besoin de contact physique. Donc, c'est l'accélérateur. Si on doit revenir à des contraintes physiques, donc il faut vraiment malheureusement agresser quelqu'un physiquement pour avoir son téléphone, pour réussir à avoir ces choses. Donc, on va nécessairement ralentir puis ça va rajouter une friction. Souhaitons que les malveillants n'aillent pas jusque-là, par exemple, parce que là, on va se retrouver avec des faits que les gens vont se faire voler leur téléphone, se faire voler des éléments qui les mettent plus en péril. Mais minimalement, au moins, en tout cas, la nouvelle elle-même, c'est qu'on transfère de ce qu'on connaît à niveau entreprise vers un niveau plus personnel. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. On va outiller les gens avec des meilleures façons de se protéger et d'aller beaucoup plus loin avec ça. Là. Donc.
Et voilà.
J'aime bien le sens. Là, clairement, mon décalage horaire est pas tout à fait bien maîtrisé. Fait que celle-là, je l'ai un petit vide. Fait que c'est une belle occasion aussi de parler un peu sur mon retour, sur le fait d'être allé au FIC, d'avoir voyagé dans ce contexte de pandémie qui est plus complexe, où les règles ont changé. Donc, globalement, ça s'est bien fait. J'ai eu la chance d'avoir eu une reconnaissance de mon passe vaccinal français, ce qui fait que sur place, ça a facilité mes choses parce que quand j'ai fait scanner mon passe, qui était européen, pas juste français dans ce cas-ci, mon passe européen, il était reconnu immédiatement par les restaurants, par les différents endroits qui scannaient ce passe-là. Par contre, ce que je déplore un peu, puis j'imagine que ça va être la même chose au Québec, mon identité n'était pas vérifiée. Fait qu'il faisait juste vérifier si j'avais scanné. Fait que j'aurais pu prendre à peu près n'importe quel code QR et ça aurait fonctionné. Je trouve cette situation un peu dommage parce que l'objectif de ce scan-là est quand même un objectif de santé publique. Fait que je sens que peut-être les commerçants sont un peu moins bien sensibilisés à ce genre de choses-là. Sinon, le récent s'est bien passé. Le transport se fait bien, le retour au Canada s'est bien fait. La seule chose que j'ai trouvé dommage de le retour, c'est qu'il faut que je passe un test PCR 72 heures avant. Si j'aurais pu m'en passer, je l'aurais fait. C'est un peu merdique. Surtout qu'il faut trouver une place en rendez-vous en France. C'est pas nécessairement évident. J'ai fait, j'ai réussi à trouver, j'ai fait tout mon chemin. Mais c'est pas un chemin qui est nécessairement agréable ou favorable au déplacement. Donc, cela va voir. Je sais que le Canada est un peu plus rigide sur ce genre de choses-là. On verra comment ça va se déplacer dans le temps. Pour revenir à l'événement lui-même, je devais présenter mon passe vaccinal à chaque fois que je rentrais, mais ça m'a permis de voir, de rencontrer bien des gens, de voir bien des choses super intéressantes. Au niveau des conférences, pour moi, ce que j'en ai tiré beaucoup, c'est au niveau du nouveau normatif et sensibilisation. Les Européens sont très en avance sur nous. Même de l'autre côté, nous, on est en avance sur l'aspect technique. Si les deux ne sont pas réunis, on obtient un effet nul. Donc, c'est ce que j'en ai tiré beaucoup de cet événement-là, de pouvoir mixer un peu, de ramener l'élément normatif, encadrement et d'amener les gens à aller plus loin. Fait que j'en ai trouvé ça vraiment très pertinent d'aller dans ce genre de choses-là. C'est ce que j'en ai tiré d'ailleurs.
Devais-tu porter le masque quand tu te déplaçais?
Oui, tout le temps. Okay. Le masque est sensiblement en France, c'est les mêmes règles qu'on a au Québec, parce que j'ai bien l'impression qu'au Québec, on copie les règles de la France et non l'inverse. Donc, dans l'événement, c'est masque tout le temps. Dans l'avion, c'était masque tout le temps. Fait que c'est des choses comme ça. Fait que si vous n'êtes pas confortable à porter un masque pendant 8 à 10 heures d'affilée, ces éléments-là sont peut-être pas à votre... à votre portée. Fait que ça fait partie des choses. Puis d'ailleurs, ça a été largement démontré que le port du masque est quand même très efficace. Fait que j'imagine, mais si je me permets un certain commentaire éditorial face à ça, j'étais agressé du fait que je voyais beaucoup de gens, mais beaucoup de gens, suffisamment de gens pour que ça m'agresse, qui portaient le masque en dessous du nez. Fait que tu sais, rendu là, ça changerait. Porte le masque ou porte le pas.
C'est nos Québécois qui ont copié les Français. C'est pour ça que nos Québécois font ça aussi. C'est pas vrai. On dirait que c'est inné, puis ça s'est fait tout seul partout dans le monde.
J'imagine, mais tout ce genre de choses-là fait que c'est un peu. Ça enlève un peu le bénéfice du geste d'avoir porté le masque, parce qu'en dessous du nez, on expulse quand même nos cochonneries. Malgré tout, dans l'avion, c'est pas si pire, dans l'avion et dans au fixe, c'est quand même globalement pas si pire dans l'ensemble, parce que c'est on présumait tous des gens qui sont vaccinés. Fait qu'on est déjà pas dans un contexte aussi tout nu qu'on l'était il y a un an, mais malgré tout, mettons ce non-respect-là des gens, des règles, ben c'est un. Parce que pour moi, ça a été un petit peu échalant. Mais quand même. Fait que j'ai passé mon test PCR, j'ai dû sortir négatif, je suis revenu au pays, il n'y a pas eu de problème. Ça a fait quand même du bien de voir d'autres gens, ça a fait de voyager, tout ça. C'est quand même, ça a un élément intéressant. Mais comme on dit en shameless plug, vacciné, distanciation, masque, lavez-vous les mains, ça a un bénéfice si on veut commencer à pouvoir bénéficier de voyager, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui nous apportent des choses nouvelles.
Yes.
Passons aux nouvelles suivantes. Celle-là va être très bref parce que dans le fond, c'est comme une répétition énorme de ce qui s'est déjà fait. La Maison-Blanche, Zero Trust, on va le mettre dans les show notes, plus le lien vers l'information en question. C'est un peu l'équivalent du Centre canadien d'information. Donc, les principes de Zero Trust promulgués par la Maison-Blanche vont être là. C'est un pas en avant. Zero Trust, c'est pas un produit. J'ai mon frigidaire et Zero Trust, by the way, parce que mon frigidaire, il est connecté à rien. Fait qu'il est fondamentalement Zero Trust, comme mon lave-vaisselle puis mon poêle, d'ailleurs. Fait qu'ils sont déjà Zero Trust, fait que j'ai zéro problème. Mais par contre, les gens qui aimeraient peut-être avancer un peu plus loin avec ce genre de contexte-là et maîtriser davantage ce genre de choses-là, le gouvernement américain, ben la Maison-Blanche met en disposition des informations qui pourraient justement aider les gens à mieux adapter ce genre de choses-là. Et pour ceux qui doivent qui ont certaines inquiétudes face au rançon logiciel, ransomware, le Zero Trust est probablement une des meilleures stratégies qui est à notre disposition pour réussir à lutter contre ça, puisque fondamentalement, on a une authentification puis des cloisonnements qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui justement empêchent cette explosion malheureuse de méchants rançons logiciels dans nos infrastructures.
La Maison-Blanche signe un décret là-dessus?
Oui, c'est exécutif.
OK.
C'est pas une loi. Puis le loi au niveau américain, c'est le Congrès qui vote des lois. La Maison-Blanche, l'exécutif, donc c'est des décrets. Un peu comme au Québec, pour prendre une situation qui est un peu plus familière pour le contexte québécois, on a, heureusement ou malheureusement, l'exécutif et le législatif réunis. Le législatif, c'est ceux qui émettent les lois. On va prendre l'exemple de le projet de loi 64 pour la protection de la vie privée, par exemple. C'est un projet de loi, fait que c'est étudié par les gens de l'Assemblée, les deux partis, comme sont parlementaires et ainsi de suite. Par contre, un décret, comme le décret sanitaire qui est fait par le gouvernement, qui est exécutif, lui, n'a pas besoin de passer par d'études ou des choses comme ça, il est lancé direct. Fait que dans un cas-ci, les Américains, eux autres, ont décidé de séparer ces deux pouvoirs-là. Nous, on les a réunis. Fait que dans ce cas-ci, eux autres, le pouvoir exécutif a dit, ben, paf, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça que ça marche. Pas de choix, ça fait mal, c'est comme ça.
Interesting.
Bon, c'est une approche différente. C'est peut-être que dans ce cas-ci, on a besoin justement de...
C'est pour ça qu'on a un baillon de bord ici.
Ouais, oh ouais.
Tandis que là-bas, c'est non, il n'y a pas de négociation, pouf, c'est ça. Ici, c'est vous voulez pas, on chigne, on chamaille, baillon, salut, bonsoir. Donc, on passe, l'exécutif passe pour des méchants?
Ben, l'exécutif, c'est non, même pas le baillon et législatif, et même pas les.
Fuck if you.
Non, c'est pas l'exécutif, c'est des pouvoirs qui sont distincts. On a quand même une certaine séparation ici. J'ai pas vu le gouvernement actuel dépasser ces limites-là, même si on peut le considérer un peu peut-être surpasser un peu ses pouvoirs, ça, mais malgré tout, ils ont quand même resté dans le spectre de l'encadrement dans ce qu'ils sont. Fait que le pouvoir exécutif, oui, il a le droit de faire son décret de sanitaire comme il a fait. Par contre, est-ce que celui-ci est trop d'une durée trop longue? La réponse est probablement oui, parce qu'il y aurait intérêt peut-être justement à reviser ces stratégies-là. Mais il agit à l'intérieur de son de ce qui est légitime. Là. Fait qu'ils sont pas de terribles méchants qui usurpent la loi. Ils sont carrément dans leur univers.
C'est bien.
Passons, puis là, on a parlé un peu de Microsoft de façon très positive avec la façon de délester les mots de passe. Malheureusement, Microsoft a connu plusieurs avaries depuis un mois et demi. On a eu CosmoDB qu'on était capable de consulter des données d'autres tenants. Il y a eu d'autres petits éléments comme ça, le MS-HTML qui permet justement de réussir à casser Office et ce qui suit sur les postes. La dernière, c'est le AzureScape. Celle-là, elle est plus que terrible parce que, puis probablement va inquiéter beaucoup de gens qui consomment des services infonuagiques, c'est que là, il a été possible, en tout cas démontré, je ne sais pas si ça a été utilisé, qu'on était capable de sortir de notre tenant et d'aller consulter les données des autres tenants. Et là, on tombe dans un univers qui est très fragile au niveau de la confiance des individus. Et je ne sais pas comment Microsoft a réussi à échouer là-dessus parce que tout ce que j'ai lu, c'est quasi une erreur de junior ce qui a eu lieu. C'est-à-dire que la vérification de sécurité était ultra faible. Et ce qui faisait que c'est dans un univers Kubernetes spécifique, mais Kubernetes, c'est quand même une des bases très importantes du stockage et du fonctionnement de l'infonogique, autant chez Azure que chez AWS. Dans ce cas-ci, ça a touché Azure seulement parce qu'ils ont imposé des gizmos particuliers dans la gestion de leur stuff. Donc, dès lors, ils sont eux-mêmes tirés dans le pied, avec le pied dans le bouche. Fait que ça fait mal. C'est très préoccupant. En tant qu'utilisateur, on a peu de recours ou peu de protection face à ce genre de choses-là si nos services sont exposés à Internet. Puis là, c'est peut-être là l'élément très important. Puis je le rappelle souvent à mes clients, c'est n'exposez rien que ce que vous avez exposé. Fait que si vous exposez vos Kubernetes directement sur Internet, je pense qu'on a un défi beaucoup plus grand que le problème que Microsoft a d'avoir laissé ça. Vous avez déjà des mauvaises pratiques. Donc déjà là, on a un problème de base. Sinon, ben là, c'est sûr que c'est plate pour Microsoft que cet élément-là soit fait. Puis un des commentaires que j'ai lu qui était très intéressant parce que dans le fond, c'est une série de moments difficiles pour Microsoft. Les requins sentent le sang. Le Microsoft saigne, fait que les requins tournent autour de Microsoft ces temps-ci, fait que c'est pas une situation qui est agréable pour eux autres.
Puis dis-moi donc, la navigation dans les autres tenants, c'était à l'insu des propriétaires de ces tenants-là?
Oui.
Ouh!
Oui, essentiellement, ce que ça faisait, le AzureScape, ce que ça fait, c'est que tu as normalement tes bulles d'exécution Kubernetes. C'est que tu as comme un microservice qui roule dans un PaaS, un Azure SQL ou peu importe là, comment tu veux, un web app, function, tous ces éléments-là qui sont, on pourrait qualifier de serverless. Dans le fait, c'est pas vraiment serverless, mais en tant qu'utilisateur, ça l'est quand même parce que tu gères pas de serveur. C'est que la bulle, normalement, devrait être fermée. C'est-à-dire que tu es dans ton petit univers fermé. Le problème, c'est que tu es capable de sortir cet univers-là puis d'aller voir l'univers des autres. Et comme on est dans un univers, dans des choses qui sont mutualisées, partagées, c'est-à-dire que tout l'ensemble des Kubernetes ou des PaaS qui existent sont partagés sur un pool de serveurs commun, c'est que si tu jumpes d'un à l'autre, ben tu jumpes dans les choses des autres. Fait que tu vas fouiller dans les affaires du voisin, tu vas fouiller les affaires des autres tenants. Donc c'est préoccupant. Est-ce qu'ils sont capables de le voir? J'ai pas vu dans les choses que j'ai lues. Ça n'était qu'à de savoir qui l'a fait. J'ose espérer qu'ils savent qui l'a fait, mais on n'a aucune façon de savoir en tant que propriétaire de tenant qu'un clone du tenant à côté est venu chez nous. Là. C'est très troublant, ça, cet axe-là.
Puis ça, ça a été décelé quand? C'est dernièrement?
C'est très récent, là. Ça fait quelques semaines au pire. C'est Palo Alto qui l'a découvert. Je ne sais pas comment ils l'ont découvert. J'ai pas lu l'ensemble des choses. Il manque encore de l'information. Puis c'est une nouvelle qui est, à mon sens, très fraîche.
Là. Et depuis combien de temps, tu penses que... Ça fait combien de temps? Depuis la naissance d'Azur que le problème est là?
Je sais pas si c'est la naissance d'Azur. Puis ça, c'est l'énorme chose qui est très drôle parce qu'on parle de vulnérabilité. Ça, c'est une vulnérabilité qui a été découverte. C'est comme dire, si un arbre tombe dans une forêt, est-ce qu'on l'entend tomber? Donc la réponse est non, mais pas parce qu'on l'entend pas tomber qu'il n'y a pas tombé. Fait que on est comme dans un contexte où la vulnérabilité existe probablement depuis très longtemps parce que c'est une fonctionnalité de Azur qui est built-in, qui est imposée d'ailleurs par Azur. Est-ce que celle-là, elle est depuis le début, depuis il y a X nombre d'années, ou elle était une erreur qui était plus récente? J'ai pas cette information-là. J'ai pas clairement vu dans les informations que j'ai lues qui nous permettent de pointer. La probabilité, c'est que ça doit dater depuis le début du fonctionnement de cette option-là qui est mise en œuvre.
Bon, écoute, ça, moi, je suis conservateur, fait que... Moi, c'est ce que je me dirais en partant, avant qu'on me prouve le contraire. Là. Mais a few, ils l'ont trouvé. Est-ce que c'est corrigé?
Oui, maintenant c'est corrigé. Il y a certains éléments que Microsoft a rendus publics sur les opérations exécutées en tant que propriétaire de tenant pour justement se prémunir contre ce genre de choses-là. Mais il demeure que n'exposez pas vos contenus de vos tenants autre que dans la stratégie Hub and Spoke, rien ne doit passer à travers le hub. Tout doit être contrôlé là. Fait que si vous exposez des choses qui sont dans le Spoke directement sur Internet, là, vous courez après le problème. Limitez-vous vraiment au Spoke. C'est qu'il y a des espèces de... pas au Spoke, excusez, Hub. C'est le Hub qui est l'endroit où tous vos services de sécurité se situent et qui contrôle l'accès à vos services exposés. Donc, peut-être... Une chose d'architecture aussi va protéger les gens. Là.
Bon.
C'est pas chouette, puis ça un peu déstabilise la confiance qu'on pourrait avoir face à ces informations-là. Puis je trouve ça, moi, personnellement, ça m'agace parce que je prétends souvent que Microsoft a investi des milliards de dollars en sécurité. Puis surtout avec des vulnérabilités aussi faibles. C'est troublant.
Puis là, tu dis, c'est Palo Alto qui a décelé justement cette faille-là. Ils ont-tu donné, dans les nouvelles, est-ce qu'on a connaissance s'il y a des entités, est-ce qu'il y a des entités connues? Non. Ils ont simplement décelé, c'est quoi le problème? Est-ce que ça s'est produit? On n'est pas là. Non, OK, non, c'est bon. OK, je comprends.
On n'est vraiment pas là. La recherche qu'on fait n'est pas de cette nature-là. De toute apparence, on fait une divulgation responsable, c'est-à-dire qu'ils ont averti Microsoft avant de le dire publiquement, donc laisser le temps à Microsoft de régler le problème. C'est vraiment un bug chez Microsoft. Quand ils l'ont réglé, ça a sensiblement réglé l'élément associé. Là. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, c'est plusieurs avaries. J'ai l'impression que je reviens sur l'article, qu'un des articles que j'ai lu, comme ça sent le sang, mais les requins tournent. Fait que j'ai l'impression que Microsoft est dans un mauvais espace. On en a vu plusieurs failles majeures. J'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres qui s'en viennent, qu'on va connaître. Fait que dans l'ensemble, si vous respectez quand même les bonnes pratiques, vous êtes quand même relativement immunisé à ces problèmes-là. Peut-être pas à 100%, mais quand même une bonne partie. Fait que c'est peut-être le temps aussi de reviser vos configurations infonuagiques, autant au niveau du SaaS ou qui est dans O365, au niveau de Microsoft que le vrai pass IaaS au niveau de Azure chez Microsoft, de vraiment revalider que vos configs sont corrects. Et là, on s'attarde à Microsoft, mais il n'est pas dit que AWS et GCP, Google sont exempts de ces problèmes-là. Donc, quand même, assurez-vous de respecter les meilleures pratiques, limiter les accès. Je pense que vous allez vous sauver beaucoup, beaucoup de problèmes comme ça.
Ça, avec la correction, là, avec la correction qu'ils font, est-ce que les clients vont en faire quelque chose ou on parle vraiment du moteur qui est publié pour les clients?
En théorie, c'est le moteur qui est publié pour les clients parce que essentiellement, ce qui a été découvert, c'est parce que quand on ouvre un service, un web app, un function ou ce que tu as jamais dans le pass, c'est que Microsoft impose des ports de gestion. Et ces ports de gestion-là ben, se trouvent à être exposés sur Internet. Et quand ils sont exposés sur Internet, ben, ils peuvent être exploités. Puis donc, c'est essentiellement là où arrive le problème de d'exploitation et de monter plus loin. Donc, si justement on n'expose pas ces choses, ces machines-là sur Internet, ben, de facto, on est protégé. Si on a vraiment, vraiment respecté la règle de l'architecture de recommandée par Microsoft de Hub and Spoke, c'est-à-dire que le Hub, qui est l'espèce de frontal qui fait face à Internet, et les Spokes sont toutes des VLAN cachées qui ne sont pas accessibles directement par Internet. On devrait s'en sortir, on ne devrait pas avoir de problème. Si on n'a pas respecté ces architectures type-là, ben là, effectivement, on est en problème. Là.
Je résume. Les ports imposés par Microsoft, c'est la propriété de Microsoft. S'il y a des mises à jour, c'est eux autres qui le font. Mm-hmm. Nous, notre responsabilité, c'est que on le sait quels sont les ports imposés par Microsoft, mais c'est à nous de configurer si le port va être bavard sur Internet ou s'il ne sera pas bavard. Donc, c'est notre responsabilité. Mais rendu là,
c'est une très belle façon de le résumer parce que justement, dans l'infonologie, il faut être très conscient de nos rôles et responsabilités. Les responsabilités de Microsoft, elle est là, puis ils l'ont pris en charge, puis ils l'ont cheminé. Mais en tant qu'utilisateur de l'infonologique, notre responsabilité n'est pas nulle. Donc, on en a eu une. Dans ce cas-ci, si on n'avait pas exposé les Kubernetes en question, ou on n'avait pas, si on les avait correctement mis en arrière d'un WAF, on n'est pas trop en problème dans la mesure où les gens n'ont pas capable de passer de l'autre côté de cet univers-là. Donc, il faut quand même respecter les architectures recommandées par Microsoft, les meilleures pratiques, et ça nous sauve bien du problème. Mais pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui respectent pas ça, qui croient que, puis qui font que. Et j'ai largement vu, même à mon grand dame, des bases de données SQL et MongoDB qui sont exposées directement sur Internet. Il y en a qui font passer les médias. Ceux que j'ai vu, j'ai juste engueulé les personnes qui l'ont fait. Heureusement pour eux autres, n'ont pas été exposés, mais demeure que si on expose des choses qui ne devraient pas, c'est notre responsabilité. C'est à nous à faire une architecture et à respecter les meilleures pratiques.
Ben de toute façon, pour avoir vu un contrat Microsoft, pour avoir vu des rapports de type SOC, par exemple, rapports de pen test, divulgation, des white papers ou peu importe, Microsoft est tout de même bien protégé aussi au niveau des rôles et responsabilités, mais... Mais écoute, je comprends ton point. Là, ça fait penser aux fameux ports. Là, les ports de 0 à 49 000, 2 à la X, là, je me souviens plus c'est lequel, qui était disponible sur Windows quand tu voulais mettre ton routeur en avant puis tu voulais faire une exposition sur Internet avec un appel vers un port, tu te souviens? Les bonnes années fin 90, début 80, où on exposait n'importe quoi sans se soucier des problèmes. Là. Ça me fait carrément penser à ça. Là. C'est la belle caricature que je vois. Je pense que c'est la même affaire. Là.
135, ouais. 137 et 139 qui étaient les ports NetBIOS. Ça, tu exposais ça sur Internet depuis 445, mais qui est le SMB moderne. Non, on n'expose pas ça sur Internet. Là. Il y a des histoires d'horreur dans le temps du modem câble plus partagé où quand tu étais dans ton anneau, tu voyais toutes les machines de ton anneau. Là. Fait que non.
Ah, j'ai une petite anecdote là-dessus. Hein? Nico parle du modem câble Vidéotron. Les fameux anneaux de 60 personnes avec les modems 30 mégabits divisé par 60, ça fait 500 kilobits. Souvenez-vous, là, année 2000-2001, j'avais un outil justement de scan, puis quand je l'ai parti, ça l'a listé en fait, ça m'a fait une belle cartographie de mes utilisateurs voisins dans mon quartier. Toutefois, j'ai eu un appel de Vidéotron pendant que j'étais en train de rouler le scan. Puis, je vous mens pas, la personne a été fort sympathique, on a dialogué ensemble, quel outil j'utilisais, puis il a été très surpris que je roule ça sans mesure de précaution, etc. Mais je voyais l'ensemble de l'œuvre sur l'anneau, là. C'était une petite anecdote, c'était le fun, là. Sans répercussion légale ou quoi que ce soit, là.
Ben, ce qui est le fun de cette anecdote-là, c'est que Vidéotron a réagi. Donc, ils sont quand même au fait de ce qui se passe dans leurs choses. Moi, c'était plus mes anecdotes sont dans une époque où j'ai l'impression qu'ils maîtrisaient moins bien cet aspect-là des choses. Donc, les gens ne se faisaient pas interpeller quand ils faisaient des conneries. Puis, l'histoire classique que j'ai, c'est fin des années 90. Ouais, fin des années 90. C'était systématique. C'est Nook Neighbor que j'avais à l'époque. Quand l'école finissait vers 3h15, 3h30, quand les adolescents arrivaient à la maison, ma machine se faisait scanner, je recevais des alertes de scan, là, c'était malade. Là. Fait que il y en avait cette époque-là où c'était peut-être un peu moins bien contrôlé. Si ces jeunes-là s'étaient fait appeler comme tu t'es fait appeler, je pense qu'ils auraient été plus calmes et moins dommageables. Mais il demeure que la machine que j'avais était bien protégée, fait que c'était pas grave, mais cela étant dit, pour ceux qui le sont moins, c'était peut-être un peu plus complexe. Puis, justement, de pouvoir accéder avec des partages de fichiers Windows et ouvert à l'ensemble de l'anneau, là, bref. Autre époque. Souhaitons que les gens s'améliorent avec le temps et qu'ils maîtrisent mieux. Changeons de nouvelle. Proton Mail. ProtonMail a fait beaucoup de bruit dernièrement, puisque Proton aurait divulgué des adresses IP de certains activistes climatiques français. Ça a créé beaucoup de bruit. Il y a du bon, du moins bon là-dedans. Dans le contexte, il faut comprendre que Proton vit en Suisse. Proton doit se conformer aux règles suisses. Ces règles suisses-là sont peut-être pas les mêmes qu'aux États-Unis, pas les mêmes qu'en Europe, pas les mêmes qu'au Canada. Donc, si on veut contester ou se comprendre, il faut comprendre les règles de le contexte légal suisse. Dans celui-ci, les règles suisses permettent la divulgation d'un certain nombre d'informations dans un système de courriel, pas dans le VPN. Donc, il faut déjà séparer les deux situations. Fait que c'est vraiment dans un contexte du courriel dans lequel ProtonMail a reçu un mandat d'une cour suisse, donc qui a été légitimé par une cour suisse pour effectuer ce qui a été demandé, donc de divulguer les adresses IP de certains activistes français. Il demeure que on peut contester effectivement le fait que l'usage du terrorisme était un peu exagéré dans ce qui est fait. Je ne sais pas dans quelle mesure on est capable de peut-être mettre des balises pour éviter que les pays abusent de cette espèce d'excuse-là d'user du terrorisme, mais il demeure que les groupes d'activisme environnementalistes sont généralement visés par des règles terroristes. Je trouve ça un peu dommage parce que je crois toujours au fait de l'activisme et de la manifestation pacifique. Dans ce cas-ci, il faudrait vraiment voir pourquoi. Mais il demeure que Proton est quand même subordonné au corps législatif suisse. Fait que si les Suisses ont admis la preuve française, ça reste là. Il y avait un cas plus ancien, donc de 2 mois, où le FBI avait demandé des informations similaires. Et la réponse de Proton à ce moment-là, ça avait été seulement de fournir des informations, les méta-informations qui étaient à leur disposition. Donc, ils ne sont pas capables d'aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'on a sur un relevé téléphonique, par exemple. Mais il demeure que quand on consomme ce genre de service-là, on se soumet à ça. Et si on veut vraiment, vraiment, vraiment protéger notre identité, un Tor ou un Proton VPN est probablement beaucoup plus propice avant d'accéder aux services pour ça. Là.
C'est les Français qui ont demandé à la Suisse?
Oui.
OK.
C'est des activistes français, donc c'est le gouvernement français qui a demandé...
À la Suisse.
Fait qu'en fait, reconnaître leur mandat par un tribunal suisse. Et après ça, quand c'est reconnu par le tribunal suisse,
L'information va sortir, là.
C'est la vie, là.
Ben oui, ils s'opposeront pas à ça. Ben, n'importe quel tribunal, ils s'opposeront pas, là. Ils vont fournir l'information. De toute façon, tu parles France-Suisse, c'est l'Union européenne, là.
Oui.
Tu sais, c'est...
Ben, la Suisse a quand même un régime législatif un peu plus indépendant de l'Union, parce qu'ils ont quand même leur propre monnaie encore, donc font partie, mais pas au complet.
Donc, OK.
Mais il demeure que du moment que le tribunal suisse a reconnu la demande faite par la France, ce qui n'a pas été le même le cas parce que quand la FBI a soumis sa demande, les tribunaux suisses n'ont pas reconnu parce que selon les cadres législatifs suisses, la requête américaine n'était pas appuyée pour amener à ce qu'ils voulaient. Donc, il faut quand même comprendre cela. Fait que c'est pas parce que c'est en Suisse que c'est immunisé, ils ont quand même un cadre législatif, puis ils ont des lois. Puis il y a une certaine forme de réciprocité qui est faite aussi, au sens où si la loi américaine est équivalente à la loi suisse, ben les Suisses vont l'exécuter telle qu'elle. Donc, ce qui s'est passé dans le contexte français, c'est que ce qui a été invoqué existe en Suisse, donc la reconnaissance de ce qui est demandé a été portée d'un contexte législatif français, juridique français, à un contexte juridique suisse. Fait que c'est passé d'un à l'autre sans problème.
Ouais, il y a concordance à ce moment-là. Là. OK, mais t'as dit quoi qui m'a intéressé? Ça n'a rien à voir avec l'informatique ou de la sécurité. Les Suisses sont dans l'Union européenne. Ils ont leur même monnaie. Là, je viens de comprendre pourquoi le Royaume-Uni était en TBK, puis ont voulu sacrer le camp, puis récupérer leur monnaie. Non, écoute, je fais un petit aparté ici, connaissant la fierté du Royaume-Uni. J'ai déjà vécu là-bas, mais je suis surpris que la Suisse ait maintenu sa monnaie que le Royaume-Uni l'a abandonné, mais soit revenu à la charge de façon le terme véhémence.
Mais la livre sterling a toujours été active en Angleterre, comme le franc suisse a toujours existé. Okay. Mais le problème des Anglais de séparation est tout autre. Je pense qu'ils sont en train de regretter un peu leur décision, mais ça, bon, bref, c'est un choix, là, puis tu sais, ça a été voté par référendum. Donc, ben, à partir de ça, ben, là, ils l'ont exécuté, puis là, ben, ils vont vivre avec leur choix. Là. D'après ça, le peuple a décidé, puis ceux qui n'ont pas voté, ben, tant pis, vous n'avez pas voté, vous n'avez plus le droit de chialer après.
Venant en Ontario.
C'est un peu la même chose, ben, là, tu sais, sans vouloir politiser les choses, mais tu sais, c'est un peu ça. Fait que ce qui fait que, de toute façon, dans le contexte de la Suisse, ben ils font leur argent avec les banques. Donc, c'est sûr qu'ils veulent contrôler la monnaie, ils veulent contrôler bien les choses.
Pas juste ça. Le faible taux de taxation pour les sièges sociaux de très grandes compagnies aussi en France. En France, en Suisse.
Ça, ou l'Irlande aussi, qui attirent les sièges sociaux. Mais tu sais, bon, ça, c'est des règles d'optimisation fiscale. Mais il demeure que le voile suisse a quand même des limites. On parlait de nouveaux bancaires. Il y a quand même de plus en plus de pression des pays occidentaux justement pour que la divulgation se fasse sur les tyrans, on va dire africains, mais il y a plusieurs tyrans dans le monde qui mettent leur argent en Suisse pour la protéger. Il y a de plus en plus de pression pour justement arrêter de protéger ces individus-là qui volent littéralement un pays de sa richesse puis s'enfuient. Donc, ces gens-là ne mériteraient pas d'une protection que la Suisse offre. D'un point de vue plus individuel ou plus petit, je peux comprendre qu'il y a une certaine valeur à protéger cette anonymité-là, mais d'un point de vue genre un tyran qui vole le pays, je commence à avoir un peu plus de misère à accepter l'idée, là.
Ouais, mais la Suisse s'est fait pointer, a commencé à se faire pointer du doigt depuis plusieurs années. À un moment donné, pression oblige. Si tu te mets à dos des puissances pour toutes sortes d'autres raisons économiques, d'exportation, d'importation, produits, services, je vais même aller plus loin, peut-être militaires ou renseignements, À un moment donné, tu finis par dire OK, on va collaborer à petits pas, mais on va y aller à petits pas, on va collaborer.
Tout à fait, puis de toute façon, c'est ça qui est important dans l'ensemble de la manœuvre. Puis c'est ça aussi qu'il faut qu'on puisse être capable de répliquer dans le monde virtuel, cette espèce de moment où il y a des pressions par différents pays pour nous amener à une certaine forme de rationalité, pouvoir comprendre qu'effectivement, de protéger des dictateurs, protéger des personnes qui volent des millions de personnes de leur avoir parce qu'ils s'enfuient avec le coffre de l'argent de l'État, d'un point de vue international, c'est non acceptable. Donc, fait que c'est ça. Fait que bref, Proton a divulgué sur la base d'une requête tribunal, donc Proton... ne commencera pas à sniffer vos adresses courriers, vos adresses IP. Proton n'a jamais été capable d'avoir le contenu, puis ça, c'est toujours protégé, puis ça demeure. Donc, si vous voulez vraiment protéger votre source IP, Proton Mail offre un gateway par Tor, par Onion. Donc, si vous voulez vraiment dissimuler votre identité, vous avez toujours cette avenue-là qui est quand même disponible. Ce qui est quand même disponible, là, fait qu'à la limite, il y a un peu de obsèque, problème d'obsèque chez les gens qui sont fait pogner, mais des gens acceptent peut-être à la face même des informations. Bref. Passons au niveau suivant. Apple a fixé. Quel anglicisme?
Corrigé.
Une vulnérabilité dans son système d'exploitation qui était essentiellement. Communiquer à travers tout ce qui s'est passé avec le NSO, Pegasus, ainsi de suite, qui permettait de faire du zéro clic, une vulnérabilité zéro clic. C'est-à-dire que, de ce que j'en ai compris des explications qui ont été divulguées, c'est qu'on recevait un GIF animé, et ce GIF animé-là contenait une vulnérabilité qui était pas correcte, qui était mal encadrée par le système de l'exploitation, et donc, quand elle était exploitée, donc, quand on recevait ce GIF-là animé, il s'en suivait une exploitation du système d'exploitation sans notre intervention. Juste la réception était suffisante et de ce moment-là, notre téléphone était compromis. Il faut relativer les choses parce que moi, comme clown, je ne serais jamais visé par ça. C'est des choses parce que le NSO Group chargeait plusieurs millions de dollars pour l'usage de cette vulnérabilité-là. Donc, comme je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est prêt à investir des millions sur ma vie, je ne suis pas visé. Par contre, des hommes d'État l'ont vu, certains hommes d'État, certaines personnes très importantes étaient visées. Donc, de ce moment-là, oui, eux autres sont de vrais.
Les journalistes aussi. Mais tu as compris la même affaire que moi. La faille était tellement bien connue que ça nécessitait plus de l'intervention justement du détenteur du dispositif qui recevait justement la pièce qui était infectée. Pour ça qu'on appelle ça zéro clic. Puis je pense qu'ils disaient aussi, je pense qu'ils ont fait des petites louanges à Apple parce que rares sont les fois, en fait je pense que c'est la seule et première fois où Apple a décidé de réagir plus rapidement qu'à leur habitude justement pour développer un correctif. Ça, c'était dans un autre article que j'ai lu, mais écoutez, je vous dis ça sous toute réserve. Mais effectivement, logiciel d'espionnage bien plate, là, qui passait sous le radar.
Oui, puis il faut aussi considérer que ce qui est là n'a été probablement découvert que par le NSO Group dans le contexte de Pegasus. Fait que c'est pas quelque chose qui était largement utilisé. Donc, c'est vraiment dans une portée très limitée en termes de cible. Les gens qui sont ciblés sont des gens importants, donc ceux-ci devront être peut-être plus prudents face à ce genre de choses-là. NSO vont trouver d'autres vulnérabilités qui ne sont pas divulguées, qui vont permettre ce genre de choses-là. Fait que ça éveille le fait qu'il faut qu'on soit toujours prudent parce qu'il y a toujours une capacité latente d'exploiter. Mais c'est zéro clic, on recevait un GIF animé, puis pouf, le téléphone était pris en possession. Mais ce que je comprends, ça coûtait quand même plusieurs millions de dollars pour avoir accès à cette vulnérabilité-là. Donc, dès lors, moi, je ne vaux pas des millions. Je pense que toi non plus. on vaut pas des millions à écouter ce qu'on dit, puis jamais c'est assez banal et très plate ce que j'ai ce que j'écris sur mon téléphone. Il y a rien de, y a très peu de secrets qui sont divulgués là. Ma vie est plate en général aussi, fait que t'sais.
Écoute, c'est parfait comme ça, puis c'est mieux d'être de même, puis c'est mieux d'être plate sur mon téléphone, effectivement. Parce que me retrouver avec une cochonnerie comme ça, je préfère que ça soit plate, que ça soit amusant pour eux autres, puis t'as raison, là. Mais ça veut, ceux qui osaient payer des millions de dollars, c'est parce que, comme tu l'as dit, là, ils ciblaient des hommes et des femmes d'importance particulière. Puis probablement que c'était très, très ciblé. C'était une niche, là. C'était une niche des raisons. Les raisons leur appartiennent, là. Ceux qui osaient payer pour ça, là. Mais, waouh.
Ben, c'est des raisons étatiques, là. Fait que moi, je ne crois pas dans les raisons étatiques. Non. Fait que je m'en sors bien. Mais il demeure appliqué le correctif, là, de 14.8,
je crois.
8, là, la dernière version. Si vous êtes trop pressé, sinon il va y avoir 15 qui sort, je pense, dans deux ou probablement au début de la semaine prochaine. Au mois de recherche, on aura juste le 16 septembre. 16 octobre. Et je suis pressé. fait que autour de la semaine du 20, je me dis que le iOS 15 va sortir. Fait que si vous voulez migrer, il y a tout, plein d'avantages de sécurité de migrer à iOS 15. De se protéger contre ça si vous êtes un peu stressé, mais normalement il y a peu de gens qui sont visés par ce genre de choses-là. Puis c'est le fun de voir à quel point comme Citizen Lab fait des recherches fondamentales dans ce genre de choses-là. Puis c'est une chose qui est quand même une entité canadienne, fait que en tant que Canadien, on va être fier de cette nature de recherche-là. On va switcher à la dernière nouvelle qui est OWASP a sorti un autre top 10 des faiblesses de sécurité. Ce top 10-là, ben, là, il est disponible sur leur site, là, le lien va dans les show notes. C'est en draft, c'est-à-dire que c'est en cours de rédaction, c'est pas bien. Les trois points d'éléments sont un peu vastes en termes que portée, fait qu'on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi dans ceci. Le fait du draft, c'est justement important que ceux qui connaissent ce genre de choses-là, puis largement plus que moi d'ailleurs, contribuez, donnez vos opinions, donnez vos affaires pour amener ce standard-là, cette façon-là, à un niveau supérieur, parce que plusieurs organisations vont juste le prendre tel quel et l'exécuter tel quel. Fait que si vous êtes capable d'y infuser une certaine sagesse, une certaine compréhension des problèmes de sécurité face aux applications, je pense qu'on va tout le monde être gagnant à travers ça. Je sais que OWASP aussi, ben je sais. OWASP a plusieurs autres top 10. C'est très intéressant. Il y a le CIS aussi qui donne un certain nombre d'éléments de sécurité plus techniques. Fait que si vous ne savez pas où commencer, c'est le genre de zone où vous devez commencer pour justement vous amener à aller à un niveau supérieur. Donc pour les gens commençants, puis les gens qui sont connaissants, ben contribuez. Dans ce cas-ci, c'est un draft, aider à la conception du draft pour qu'il soit utilisable par tout le monde, puis qu'on fasse pas juste chialer. Puis ben, si vous avez d'autres éléments ou justement de contributions dans ces standards-là qui sont très importants, puis qui sont peut-être même pas suffisamment aimés, vont nous aider à amener plus loin et à nous sauver du trouble sur des problèmes qui sont techniquement fondamentaux, là.
Oui, OWASP, c'est reconnu. Ça marche, ça va bien, fournissent des idées, fournissent des outils. Si vous avez des connaissances, si vous êtes un chercheur, quelqu'un qui a innové, vous voulez partager vos trouvailles, ça va juste renforcer justement le framework, puis les pratiques, puis les trucs et astuces aussi, là. C'est comme en fait le guide de tricherie que t'achetais quand tu jouais un jeu, que tu n'étais pas capable de passer au niveau suivant. Mais dans ce cas-ci, c'est un kit de tricherie justement pour renforcer son périmètre, rehausser la qualité du développement sécuritaire, applicatif, entre autres, etc. Puis écoutez, ils fournissent même des outils automatisés, le cas échéant, qui font du travail pour vous, puis qui soulèvent des qui vous soulèvent vos écarts, justement. Fait que c'est une belle organisation, puis contribuer avec eux autres, vous n'êtes pas perdant, là.
Effectivement, on n'est pas perdant. C'est très important de contribuer, puis c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast, on contribue aussi de notre façon à l'ensemble de l'amélioration de l'œuvre. Mais OWASP travaille depuis longtemps sur des top 10. Ceci guide, c'est sûr que les top 10 ne sont pas faits pour remplacer un cadre plus large, mais sont des outils minimaux pour aider les organisations qui ont un peu moins d'argent, qui ne sont pas capables de se payer un consultant en cybersécurité qui est très dispendieux de par sa rareté et parce que on est de plus en plus en demande. C'est très difficile pour les PME de pouvoir aller dans ces zones-là, mais il demeure que si vous êtes capable de vous le payer, prenez-vous un consultant de qualité en cybersécurité, puis ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de troubles dans le futur. Moi, je suis plus sécurité, Vincent, plus normatif, plus vérif interne. Donc, c'est des axes qui sont très intéressants à maîtriser et à comprendre, même si dans un contexte de PME, c'est un peu plus difficile de trouver ce genre de ressources-là, puis on n'a peut-être pas nécessairement les moyens de ces pays. Mais je connaissais quand même une entreprise de fondée par une personne de Québec qui était justement là, sur la base de ciseaux à engager, donc de justement d'aider à temps partiel les plus petites entreprises. Ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas jasé. Je ne sais pas comment ces affaires ont fait, mais la dernière fois que j'ai jasé, ça allait super bien. Donc, il y a une capacité, il y a un besoin. Puis, si vous avez ce besoin-là, c'est très important justement de poser les gestes concrets, là.
Puis le OWASP, ce qui est intéressant, c'est pas leur premier top 10, comme Nico dit, mais c'est un bon point de référence pour commencer à vous questionner justement sur vos différents risques en matière de sécurité de l'information. Fait que ça vous donne déjà une bonne base. Puis comme Nico a dit, là, oui, un spécialiste en cyber, c'est pas facile à trouver. En tout cas, à Québec, c'est pas facile à trouver. J'appellerais pas ça une pénurie, c'est que le placement de produits il est déjà pas mal placé, puis il a été récupéré ses tablettes. Mais effectivement, là, c'est déjà une bonne base. Là. Ça donne des tendances, en fait, là, au niveau du top 10. Puis tardez pas trop à vous trouver ou à développer une expertise au sein de vos entreprises, parce que le top 10 y évolue. Ça devient beaucoup plus complexe, ça devient beaucoup plus sophistiqué. C'est ce que j'appelle... on développe des produits de nouvelle génération, des compétences de notre personnel de nouvelle génération. Pourquoi? Parce que le cyber-clown terroriste, il est créatif lui aussi. Il crée sa propre nouvelle génération
de clownerie. Il est même plus créatif que nous autres. Là. C'est ça qui est même troublant là, tant qu'à ça. Là.
Alors voilà.
Effectivement, fait que soyez prudents, investissez, mettez-vous pas la tête dans le sable, s'il vous plaît. Si vous êtes des professionnels en sécurité, aidez les entreprises à s'accompagner là-dedans. J'en connais plusieurs qui accompagnent spécifiquement les PME. Si vous avez un peu de temps disponible, faites-le, c'est essentiel parce que c'est quand même des gens qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'amour en cyber pour justement les amener à comprendre les risques sont associés. Donc, bref, ça termine pas mal l'épisode d'aujourd'hui. On a encore explosé dans le temps. C'est des sujets qui sont super intéressants, qu'on a énormément de plaisir à discuter. Si vous écoutez jusque-là, vous allez avoir l'occasion de l'entendre. On a des médias sociaux. Communiquez avec nous si vous avez des sujets. Communiquez avec nous si vous avez des idées. Gênez-vous surtout pas. Au fil que j'ai eu l'énorme privilège de rencontrer des gens qui écoutent le podcast, qui m'ont discuté. Donc, n'attendez pas juste que j'apparaisse en vrai ou que Vincent apparaisse en vrai. On a des messages, on a des courriels, toutes les stratégies possibles pour communiquer avec nous sont disponibles. Vos sujets nous inspirent énormément, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui communiquent avec nous. Donc, ça nous aide à aller plus loin. Ça nous aide à partager. Donc, gênez-vous pas, communiquez avec nous.
Oui, prenez ça comme la bouteille du génie. Frottez-la un petit peu. Et écoutez, on va sortir, puis on va vous répondre.
Absolument. Fait que sur ça, soit un bon 2 semaines. Je pense que c'est le moment, où, le cycle dans lequel on se voit.
Oui, un bon 2 semaines. Puis, mesures sanitaires toujours en œuvre. Lavez-vous les mains. Puis, soyez en santé.